Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Belle île en mer Méditerranée, île de beauté, terre de romans, d'écriture, comme d'aventure, la Corse se raconte sur France Culture en 1969, la Corse et les écrivains français. Voyage dans les mots de Maupassant, de Mérimée, ses liens avec Stendhal, ses livres Corse comme Colomba. Évocation de la véritable héroïne, Colomba Carabelli, des villages de Fozzano et Olmeto, qui a inspiré l'écrivain pour son roman. Voyage dans les pages de Flaubert, Loti, Gautier, qui nous parle du charme d'Ajaccio. Bon voyage, Corse, sur la belle île, en mer et en mots.
France Culture vous prie d'écouter La Corse et les écrivains français, une émission de Paul Chavas. Avec la participation de Maurice Echappas, Pierrette Geoffroy, Pierre Salomon, Marie Susini, Philippe Van Tighem. Et les voix de Jean Rochefort, Henri Nassier, Jean Levray, Jacques Fayet, Georges Aubert, Gaëtan Jor, Jean Daguerre, Inès Nazaris et Rosine Favet. Réalisation Arlette Dave.
Mérimée n'est pas le premier écrivain français à avoir parlé de la Corse, mais c'est avec lui, avec Matteo Falcone et Colomba, que la Corse devient partie intégrante d'une œuvre littéraire. Auparavant, Jean-Jacques Rousseau, qui voulait doter les Corses d'une constitution, avait écrit de belles pages dans son contrat social sur les habitants de cette île, et Alfred de Vigny songea un temps à écrire leur histoire. Il est de fait que depuis une cinquantaine d'années, la Corse avait donné matière à plusieurs ouvrages consacrés soit à son histoire, soit à ses coutumes. Lorsque Mérimée s'avisa, en 1829, d'écrire Matteo Falcone, nouvelle dont le décor, les caractères et l'action sont empruntés à une Corse qu'il n'avait jamais vue. Quelle est donc l'importance de ce choix, l'importance de Mérimée ? Philippe Van Tighem.
La Corse dans l'œuvre de Mérimée est, je dirais pas un accident, mais enfin dans son œuvre importante, très vaste et très variée, la Corse, qui a fait une grande partie de sa célébrité populaire, n'est qu'une petite partie. Mérimée a fait partie du groupe romantique, mais du groupe romantique libéral qui l'opposait au groupe romantique de Victor Hugo et de ses propres amis, qui étaient, eux, au contraire, traditionnalistes, royalistes et défenseurs de la religion. Lui-même, ami intime de Stendhal, faisait partie de ce groupe libéral qui ne tenait pas du tout à cette continuité de la tradition. Il a créé, on peut dire, le roman historique avec la chronique du règne de Charles IX, qui est un chef-d'œuvre, et ce qu'on avait fait de mieux en France à cette époque-là, comme évocation d'une période historique avec autant de discrétion que d'exactitude, de précision, sans surcharge de couleurs locales du passé. Ses autres œuvres dramatiques sont issues de ce trait, constant chez lui comme chez Stendhal, de la mystification. que ce soit la Guzla, recueil de poésie soi-disant illyrienne, attribué à un certain Maglanovitch, qui n'a jamais existé, ou que ce soit le théâtre de Clara Gazul, attribué à une actrice espagnole qui n'a pas plus existé, mais dont le portrait était mis en tête du recueil de ses pièces, et qui était, on le sait, le portrait même de Mérimée, arrangé de manière à avoir l'air d'une espagnole. Mais ces plaisanteries ne touchent pas du tout à la valeur profonde de ses œuvres. Il y a chez lui un sérieux, une volonté d'exactitude qui s'oppose à ce goût de la mystification. Aussi, quand il veut de la couleur locale, il a su la disposer avec une discrétion et une exactitude qui n'est pas le cas de tout le monde à l'époque romantique. Et comme Stendhal, il ne tient pas à faire étalage d'une science en rapport avec les pays ou les époques qu'il évoque, qu'il dépeint. Et la Corse, à travers lui, ne fait ressortir que les traits essentiels de la mentalité de la Corse, beaucoup plus que le décor extérieur, le cadre des histoires qu'il raconte. Quant au style qu'il emploie pour raconter, pour décrire, il a une sobriété, une discrétion qui contraste avec l'abondance verbale de ses contemporains romantiques. Pour cela, il est tout proche de Stendhal, et ils ont absolument les mêmes conceptions de l'idéal du style. Une certaine froideur apparente, une certaine sécheresse volontaire, et surtout pas d'adjectifs abusifs, et pas de phrases à la Chateaubriand. Leur horreur pour Chateaubriand leur est commune. Et c'est en réaction contre cet ancêtre du romantisme qu'ils adoptent ce style volontairement sec et froid. Évidemment, ce style est différent si l'on considère sa correspondance. Là, il se livre plus, il a plus d'aisance, et sa sensibilité profonde, qu'il cache si soigneusement dans ses œuvres publiées, se révèle, et on peut dire révèle un autre Mérimée, beaucoup plus humain et sensible qu'il ne laisserait apparaître lorsqu'il se livre au public. De tous les auteurs du XIXe siècle, de l'époque 1820-1880, Mérimée est certainement un de ceux, avec Stendhal, qui ont le moins vieilli. Son style, en effet, est aussi classique que s'il avait été utilisé au XVIIIe siècle. Si bien que, tant par l'intérêt des histoires qu'il raconte, des pièces qu'il a écrites, des romans historiques qu'il a publiés, que par le style, la forme même, il se trouve de plein pied avec la littérature française permanente, éternelle, et par conséquent, de plein pied avec le goût contemporain dans sa majorité.
Cette nouvelle, Matteo Falcon, avec laquelle la Corse va prendre place parmi les thèmes littéraires, est publiée dans la Revue de Paris au printemps de 1829. Matteo Falcon est un propriétaire corse, habitant tout près du maquis de Porto Vecchio avec sa femme et son fils Fortunato. Un jour où l'enfant est seul, un bandit survient, blessé, poursuivi par les soldats, et il demande à cet enfant de le cacher sous un tas de foin. Les soldats arrivent peu après.
Vaut rien. Sais-tu bien qu'il ne tient qu'à moi de te faire changer de note ? Peut-être qu'en te donnant une vingtaine de coups de sable, tu parleras enfin.
Mon père est Matteo Falcon !
Sais-tu bien, petit drôle, que je puis t'emmener à Corté ou à Bastia ? Je te ferai coucher dans un cachot, sur la paille, les fers aux pieds. Et je te ferai guillotiner si tu ne me dis pas où est Gianetto Sampiero.
Mon père est Matteo Falcon !
Adjudant, ne nous brouillons pas avec Matteo.
Pourtant, ce Gianetto ne doit pas être loin.
Alors, ta chatte s'est installée dans ce tas d'herbes sèches, avec ses petits ?
Oui, tous les jours, je lui apporte à manger, là, par terre.
Elle est jolie.
Oh, allons, oui. Allons, camarade, cherchez mieux. Fouillez encore la maison. Petit Fortunato, tu me parais un gaillard bien éveillé. Mais tu joues un vilain jeu avec moi.
Bah.
Mais quand mon cousin sera revenu, je lui conterai l'affaire. Et pour ta peine d'avoir menti, il te donnera le fouet jusqu'au sang.
savoir.
Tu verras. Toujours rien ?
Non, rien.
Quelle heure est-il donc ?
Oh !
Tiens, tes yeux brillent. Ah, fripon ! Tu voudrais bien avoir une montre comme celle-ci suspendue à ton col, hein ? Tu te promènerais dans les rues de Porto Vecchio, fier comme un paon, et les gens te demanderaient quelle heure est-il ? Et tu leur dirais, ben regardez à ma montre.
Quand je serai grand, mon oncle caporal me donnera une montre.
Ah, sans doute. Mais le fils de ton oncle en a déjà une. Oh, pas aussi belle que celle-ci, à la vérité. Cependant, il est plus jeune que toi.
Ça ?
Eh bien, la veux-tu cette montre, petit cousin ?
Oh, pourquoi vous moquez-vous de moi ?
Par Dieu, je ne me moque pas. Dis-moi seulement où est Gianetto, et cette montre est à toi.
Oh, à moi ?
Que je perde mon épaulette si je ne te donne pas la montre à cette condition. Tiens, les camarades sont témoins.
Là, dans le foin, sous les chats.
Voilà Mathéo.
Où donc ?
Là, vers le maquis. Tu vois pas luire le canon de son fusil ?
Oh ! Mathéo ! Mathéo ! Je suis Gamba, ton cousin !
Ah oui ! Il approche vite maintenant.
Et Giuseppa le suit. Elle doit rapporter des châtaignes dans ce gros sac.
Bonjour, frère. Il y a longtemps que je t'ai vu.
Bonjour, frère.
Et j'étais venu pour te dire bonjour en passant et à ma cousine Pepa. Nous avons fait une longue traite aujourd'hui. Mais nous avons fait une fameuse prise. Nous venons d'empoigner ce Gianetto Sampiero.
Dieu soit loué ! Il nous a volé une chèvre laitière la semaine passée.
Oh, pauvre diable, il avait faim.
Le drôle s'est défendu comme un lion. Il m'a tué un de mes voltigeurs. Ensuite, il s'est si bien caché que le diable n'aurait pu découvrir. Sans mon petit cousin Fortunato, je ne l'aurais jamais pu trouver.
Fortunato ?
Fortunato ?
Oui, oui. Le Gianetto était caché sous ce tas de foin là-bas. Mais mon petit cousin m'a montré la malice. Aussi son nom et le tien seront dans le rapport que j'enverrai à monsieur l'avocat général.
Mathéo.
Oui. Tu commences bien.
Mon père !
Arrière de moi !
Cette chaîne qui sort de ta chemise. Une montre. Qui t'a donné cette montre ?
C'est mon cousin, l'adjudant.
Gamba t'a donné ? Femme, cet enfant est-il de moi ?
Que dis-tu, Mathéo ? Et sais-tu bien à qui tu parles ?
Eh bien, cet enfant est le premier de sa race qui ait commis une trahison.
C'est ton fils !
Laisse-moi, femme. Je suis son père. Rentre. Fortunato, dis tes prières.
Mon père, ne me tuez pas !
Dis tes prières !
Notre père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mon père. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Amen.
Amen.
Sans cela, toutes les prières que tu sais.
Mon père, je sais encore l'Ave Maria, la litanie que ma tante m'a apprise.
Elle est bien longue, n'importe.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Mon père.
As-tu fini ?
Oh, mon père, grâce, pardonnez-moi, je ne le ferai plus. Je prierai tant mon cousin le caporal qu'on fera grâce à Gianetto, mon père.
Que Dieu te pardonne.
Qu'as-tu fait ?
Justice.
Mathéo, notre fils.
Je vais l'enterrer, Il est mort en chrétien. Je lui ferai chanter une messe. Qu'on dise à mon gendre, Teodoro, bien qui de venir demeurer avec nous.
Piedo, signore.
Cette nouvelle, donc, que Prosper Mérimée faisait entrer la Corse dans la littérature française. Et avec Colomba en 1840, il fixera un certain type de caractère et d'action ayant la vendetta pour ressort. Et les romanciers du XIXe siècle ne se sont pas privés d'en user. Certains Corses protestent contre une image à laquelle on peut au moins reprocher d'être devenu un stéréotype. Écoutons justement une romancière corse, Marie Susini.
Si les Espagnols ne pardonnent pas à Mérimée une image de l'Espagne dans laquelle ils ne se reconnaissent pas, les Corses pourraient en dire autant de Colomba et de Matteo Falcone. Car enfin, la Corse, depuis plus d'un siècle, vit sur ces deux clichés, la vendetta et l'honneur. C'est vrai que ce sont des caractères particuliers à l'âme corse. Et pourtant, l'image de la Corse que nous a donnée Mérimée dans ces deux nouvelles sont à la fois vraies et ce qu'il y a de plus faux. Depuis le paysage, qu'il ne sent absolument pas, puisqu'il dit que ce paysage est monotone, qu'il y a autant de couleurs locales que de punaises, qu'on s'arrache son habit dans le maquis, c'est tout ce qu'il trouve à dire. Mais dans le caractère violent, primitif et austère des Corses, rien ne pouvait l'attacher. Cette Corse, il l'a faite si peu sienne, qu'il n'a même pas inventé une histoire comme font les écrivains. Il a eu recours soit à une histoire vraie, comme dans Colomba, à une anecdote, disons, soit à un conte populaire, comme dans Matteo Falcone. Cette histoire de Matteo Falcone, on en connaissait au moins 10 versions au moment où Mérimée l'a écrite en 1829. Je ne sais pas, personne ne sait à quelle source il a puisé, puisqu'il a accrédité cette légende du voyageur qu'il a rencontré un soir dans un dîner, qui revenait de Corse, qui lui aurait raconté cette histoire comme vraie, s'étant passée sous ses yeux. En gros, c'est un enfant qui est puni de mort par son père pour avoir transgressé cette loi sacrée qu'est la loi de l'hospitalité en Corse. Il y a des aspects qui sont vrais et d'autres qui sont faux. Dans le paysage, par exemple, il est évident que Mérimée ne connaît pas la Corse. Du reste, on le sait, c'est en 40 qu'il fait le premier voyage en Corse. Et même dans les détails, malgré les mots corse qui y sont, et quelques petites touches, quelques petites notes sur les mœurs qui paraissent vraies. Par contre, ce qui est vrai, c'est la souillure que cet enfant porte désormais pour avoir transgressé justement cette loi qui n'est pas écrite et qui est sacrée en Corse, avoir trahi quelqu'un qui était chez lui et qui demandait refuge. Cette loi est encore valable de nos jours. On n'imagine pas, en ce moment même en Corse, alors que les mœurs ont changé, qu'on puisse trahir quelqu'un qui vient chercher refuge chez vous. C'est sans arrêt qu'à propos de cette nouvelle, on emploie le terme de tragédie ou de chef-d'œuvre. Ça n'est pas tragique parce que qui dit tragique dit qu'il y a de la terreur et la pitié. Ce sont les ressorts de la tragédie classique. Or, ici, il y a de la terreur, mais il n'y a pas de pitié. L'enfant n'est pas sympathique. En Corse, on dirait que c'est un bâtard. Si j'emploie ce terme, c'est à dessein. Personne ne le reconnaît plus, il n'y a qu'à lire Mérimée. Le bandit dit « Éloigne-toi de moi », le père dit « En arrière » ou quelque chose comme ça. Et surtout, il n'y a pas de conflit chez ce père entre cette loi sacrée qui a été transgressée et cette force obscure du sang qui, quand même, devrait l'arrêter. Mérimée est parti d'un conte populaire et il est resté dans le conte populaire. C'est sur une donnée brute, simple, que s'échafaude un conte populaire. Ici, dans un fond primitif où la religion et le droit se confondent. Je croirais pour ma part que c'est un fond tellement, tellement lointain et archaïque, parce que tous les mots, toutes les images qui me viennent, ce sont des termes religieux. Cet enfant a fait un acte d'impiété. La loi est sacrée. C'est un sacrilège qu'il a fait. Or, comme dans tout rite, un sacrilège ne peut être lavé que dans le sang, par un sacrifice. Mérimée a poussé à l'extrême jusqu'à l'idéaliser dans le sens d'en faire une histoire exemplaire qu'on va raconter aux enfants le soir, qui va leur faire peur, qui illustrera une leçon de morale. Matteo Falcone de Mérimée a ce côté à la fois vrai et faux d'une légende populaire.
Moneti non ci ubreno ma tu tre cosa strana la maceseliadu a rigor si gunta voglio l'un fatu chi me starvadu. Di galca d'odio mi piace la verdura, la terra ricca con tanta erbura dura. Quando galca d'odio ride, ride tutta la natura.
Après cette première étape dans ses rapports avec la Corse, c'est-à-dire couleur locale, fête de chic, document plus intuition, Mérimée découvre la Corse. Il la découvre 10 ans plus tard. Il s'embarque en effet à Marseille le 15 août 1839 et ne quittera Bastia que le 7 octobre pour rejoindre Stendhal en Italie. Entre-temps, il parcourt l'île en tous sens et sa correspondance en témoigne.
Je me suis fort amusé dans ce pays-ci et j'ai tâché de tout voir, depuis le cèdre jusqu'à l'hysope. En fait de monuments, il est pauvre. Cependant, il y a des dolmens et des menhirs, choses infiniment curieuses dont vous ne m'aviez rien dit, et une statue phénicienne qui a tout l'air du portrait de Bomilcar, si ce n'est celui de Giscon ou d'un autre.
Comme ce voyage est en vérité une mission qu'il accomplit en tant qu'inspecteur des monuments historiques, nous avons demandé à Maurice Echappas, qui remplit aujourd'hui les mêmes fonctions, de nous en parler. C'est en effet un aspect peu connu de la vie de Mérimée, alors que son rôle au monument historique fut décisif, d'autant plus net que ce service était créé depuis peu et que l'idée de conserver était toute nouvelle.
Mérimée va en Corse en 1839 et il parcourt l'île en tous sens au cours de l'été. Il avait publié Matteo Falcone 10 ans auparavant, en 1829, et on pouvait penser que c'était des raisons littéraires qui l'attiraient dans l'île. En réalité, il n'en est rien. C'est pour des raisons professionnelles que Mérimée va en Corse. Et ce n'est pas un voyage d'esthète ou d'homme de lettres, mais une tournée d'archéologue et de fonctionnaire de la couronne. Mérimée avait été nommé inspecteur des monuments historiques en 1834. Il n'était pas le premier à occuper le poste, comme on le dit parfois. Le premier inspecteur des monuments historiques avait été Ludovic Vité. Il occupa ses fonctions pendant 4 ans, mais absorbé par ses recherches et encore plus par la politique, il n'eut pas un rôle très important. Si j'avais le temps, soupirait-il, de voir les monuments, mais je ne vois que les préfets. Lors de sa nomination, Mérimée a 30 ans. Il occupe une grande place dans la vie littéraire, a une vie mondaine très brillante, et il semble tout d'abord que ce titre d'inspecteur des monuments historiques ne doive avoir, comme pour Vité, qu'une importance un peu marginale dans ses activités.
Oui, en effet, rien ne l'a préparé, aucune étude spécialisée.
Rien ne l'avait préparé, en effet, sauf peut-être sa naissance, ses parents, son père était secrétaire de l'école des Beaux-Arts, mais il s'intéressait bien sûr à l'histoire puisqu'il avait déjà écrit plusieurs romans historiques. Mais enfin, au début, il ne fait pas preuve d'une vocation très précise, même en tenant compte de son scepticisme et de son esprit. Il écrivait « La place convient tout à fait à mes goûts, à ma paresse et à mes idées de voyage. Ainsi, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. » Or, bien au contraire, Mérimée va travailler, beaucoup travailler pour la cause des monuments anciens et beaucoup voyager. Ses tournées sont fréquentes entre 1834 et 1852 dans cette France plus inconnue, dit-il, que la Grèce ou que l'Égypte. Et c'est au cours d'une de ces tournées qu'il passe en Corse et nous verrons tout à l'heure ce qu'il en a rapporté. En 1853, Mérimée est sénateur et alors son rôle change. Il est avant tout l'homme qui plaide la cause des édifices anciens. Depuis 1836, un chapitre spécial du budget est affecté aux monuments historiques. Et Mérimée va tenter, souvent avec succès, par une propagande incessante, d'attirer les crédits dans le secteur qui l'intéresse. Pour frapper l'imagination des parlementaires ou des élus locaux, il donne même des évaluations chiffrées du coût de construction de certains monuments, montrant ainsi que c'est une richesse à sauvegarder, non seulement pour quelques amateurs, mais un capital immobilier d'une valeur immense à conserver.
Que sont nos monuments historiques sinon des églises, des hôtels de ville, d'autres palais de justice? Doit-on dans ces constructions nouvelles bannir tout art, tout ornement, et ne refaire que ce qui est strictement indispensable pour l'utilité matérielle? La dépense résultant de ces tristes constructions serait infiniment supérieure à celle que coûterait la restauration de nos admirables monuments.
Mais s'il vous plaît, revenons à la Corse, car c'est en 1839 et en tant qu'inspecteur des monuments historiques que Prosper Mérimée, pour la première fois, 10 ans après Matteo Falcone, va découvrir ce pays dont il a déjà rendu la couleur locale.
Mérimée rapporte d'abord ce qu'il rapporte de toutes ses tournées, c'est-à-dire de nombreuses notes et parfois accompagnées de dessins. Ce sont surtout des plans d'édifices et des relevés épigraphiques. De ces documents, il fit un rapport au ministre qui fut publié sous le nom de « Notes d'un voyage en Corse ». Il y traite des édifices qu'il a vus en les classant des chapitres distincts, les monuments antiques, les églises romanes des XIe et XIIe siècles, les églises des XIVe et XVe siècles, enfin les tours, les châteaux, les fortifications. Et un appendice imprévu, ce sont des poésies populaires corses. Nous connaissons aussi ce voyage de Mérimée par ses lettres. Malheureusement trop rare, car les lettres sont plus vivantes que le rapport administratif, et c'est par elles que nous voyons comment Mérimée voyageait.
À Charles le Normand, Ajaccio, 28 août 1839. Il faut voyager à cheval ici et sur des espèces de chèvres pour la taille. Elles ne font guère que 10 lieues par jour, point d'auberge. Pour vivre, il faut faire provision de lettres de recommandation, au moyen desquels on est traité homériquement par les gens à qui elles sont adressées. Quand on arrive, éreinté dans une maison inconnue, il faut faire l'aimable jusqu'à 10 heures, au lieu d'écrire ou de dormir. Le matin, impossible de partir avant d'avoir fait honneur au déjeuner. De la impossibilité de faire vite quelque chose en Corse.
Et un mois plus tard, le 29 septembre 1839, il écrivait à Étienne Conti.
Hier, j'ai essayé d'aller à la tour de Sénèque, mais j'ai été obligé de rétrograder trempé jusqu'aux os. Pendant le plus fort de l'orage, je me suis réfugié dans une cabane où l'on faisait le feu au milieu du plancher. Comme la fumée avait à choisir entre la porte et la fenêtre, pour sortir, elle montrait beaucoup d'indécision, et les yeux m'en cuisent encore. En revanche, j'ai causé une indicible admiration en expliquant à mes hôtes ce que c'est qu'un chemin de fer. Je parlais italien. Vous vous figurez comme cela devait être clair. J'attends la fin de la pluie pour aller à Murato et à Algaiola. En attendant, je fouille dans les dossiers de la cour royale et me repais d'assassinat.
Il est tout à fait l'opposé du pèlerin romantique épris de couchers de soleil et de sites grandioses. On peut dire qu'il est de ce point de vue à l'opposé de Chateaubriand. Chateaubriand va droit aux chutes du Niagara, recherche du sublime, un sublime qui trouvera d'ailleurs sa caricature avec les extases des bons bourgeois de Louis-Philippe devant le panorama et de M. Perrichon devant la mer de glace. Le romantisme a été défini parfois comme fuite loin de la réalité présente, soit dans le temps, c'est Chateaubriand, Walter Scott, Théophile Gautier, soit dans l'espace, ce sont les exotismes. Mérimée obéit à ce double courant, mais déjà d'une manière plus scientifique qu'imaginative. Il y a un côté presque ethnologue dans son exotisme, comme il y a un côté archéologique dans son voyage dans le temps. Il avait imaginé dans ses romans un passé reconstitué à la manière de Walter Scott, mais il sera très sévère pour cette admiration de jeunesse.
À Madame de la Roche-Jacquelin. Je vois avec peine que vous faites grand cas de Walter Scott. Je l'ai beaucoup aimé, maintenant je ne puis le relire. Il a des rabâchages qui m'excèdent, et c'est un petit esprit et une nature basse. En littérature, c'est une manière de Gérardot, qui peint merveilleusement une cruche et qui n'a jamais su faire une figure. Dans le temps où les romans historiques sont revenus à la mode, il a exploité habilement ce genre bâtard et il a fait de détestables disciples. Il a donné des idées fausses sur l'histoire comme le voyage du jeune Anacharsis en a donné sur l'Antiquité pour avoir mêlé le faux et le vrai. Puis il est d'une ignorance crasse.
Le passé, Mérimée le comprend désormais à travers les irremplaçables documents que sont les monuments anciens. Mais ceci, il ne les sépare pas de leur contexte, au contraire, il les replace dans leur paysage, leur insertion géographique et géologique, et il ne s'intéresse pas seulement aux pierres, mais aux hommes qui les habitent.
Si je vous comprends bien, Mérimée découvre là une véritable forme d'exotisme particulière à la Corse. Mais s'il vous plaît, je voudrais que nous revenions aux monuments historiques. Car en fait, c'est une véritable exploration. Les monuments corses étaient très peu connus.
Les monuments corses étaient en effet très peu connus. Et Mérimée en a visité beaucoup. Il a fait des dessins, il a fait des plans. Mais il a eu aussi des difficultés. Il y a un passage de sa correspondance qui est assez savoureux, où il avoue une erreur de datation, qui est d'ailleurs bien compréhensible, car il était très difficile, à son époque, d'étudier les monuments, la photographie n'existait pas. Il fallait se rappeler les fresques, les vitraux, les miniatures, on n'avait pour tout cela que des relevés imparfaits, et la mémoire visuelle devait être extraordinaire pour pouvoir, quelquefois à des distances de plusieurs mois ou de plusieurs années, se rappeler la particularité d'une œuvre et la rapprocher d'une autre que l'on avait sous les yeux. Mérimée fit ainsi à son détriment l'expérience que l'on ne peut voyager dans l'espace sans voyager dans le temps. Il avait devant ses yeux des fresques, il les date comme s'il était en Italie, mais les influences mettent du temps à se propager, et de là cette erreur qui l'avoue d'ailleurs en toute franchise et tout optimisme.
À Charles Lenormand, Ajaccio, 28 août 1839. En passant par Tchervionne, j'ai éprouvé une de ces surprises décourageantes qu'on rencontre de temps en temps. Au bas de la montagne de Tchervionne, il y a une petite église de Santa Cristina dont la forme est bizarre. Les deux absides sont peintes à fresque et représentent le bon Dieu et quantité de saints. Draperie raide, longueur et maigreur des membres, absence d'ombre, etc., etc. Tout sent le byzantin d'une lieue. Il n'y a qu'un Saint-Michel dont la cuirasse de plate semble un peu plus moderne. Ces fresques que j'aurais attribuées au XIIIe siècle portent malheureusement la date de 1473. Je me console de ma bévue en supposant qu'elles ont été peintes par un natif qui n'avait point étudié chez M. David.
En fait, Mérimée est très honnête. Il se trompe rarement, mais enfin, il lui arrive de se tromper, et il le reconnaît, comme le prouve le texte que nous venons d'entendre. Mais l'époque de son voyage en Corse est celle où s'élabore, peut-être pour les monuments historiques, mais en tous les cas pour Mérimée, une doctrine qui est celle de la conservation des monuments historiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
C'est en effet à cette époque que s'élabore le mot doctrine, et peut-être un peu précis, mais que l'on met sur pied des méthodes, du moins, de restauration qui éloignent de certaines pratiques tout à fait fâcheuses qui consistaient à réparer tant bien que mal, avec des moyens locaux, des édifices d'une fort belle qualité architecturale. Mérimée a dénoncé plusieurs fois certaines de ses pratiques au cours de ses tournées, des maires qui, pour mettre des persiennes, ont taillé les meneaux et les fenêtres d'un clocher roman, des maçons locaux qui arrachaient des fragments de sculptures pour les remplacer par des pierres grossièrement taillées, les exemples fourmillent dans sa correspondance. Mais surtout, ce qu'il faut souligner, c'est qu'en 1840, c'est à la demande de Mérimée que Viollet-le-Duc intervient, alors qu'il n'a que 26 ans, sur un des chantiers, on peut dire, les plus importants de l'archéologie française, puisqu'il s'agit de la Madeleine de Vézelay. Après Vézelay, Viollet-le-Duc allait travailler sur de nombreux autres chantiers, tout aussi importants, et son nom sera lié à une certaine idée de restauration abusive. En réalité, ce n'est que plus tard, l'autorité et l'expérience lui venant, que Viollet-le-Duc sera moins respectueux de l'intégrité des édifices anciens, et surtout qu'il sera tenté de faire disparaître des parties construites plus tardivement au nom de l'unité de style. Mais le Viollet-le-Duc de Vézelay était encore tout proche des recommandations que Mérimée exprimait justement en 1841.
Lorsqu'il reste quelque chose de certain, rien de mieux que de réparer, voire même de refaire. Mais lorsqu'il s'agit de supposer, de suppléer, de recréer, je crois que c'est non seulement du temps perdu, mais qu'on risque de se fourvoyer et de fourvoyer les autres. Proscrire l'imagination est le premier devoir de l'archéologue. Il faut remplacer la divination par l'analyse scientifique qui doit permettre aux sciences historiques autant de progrès qu'elle en a apporté aux sciences naturelles. Textes écrits, cartulaires, missels, chansons de gestes, catalogues, pièces d'archives, les documents de tout ordre doivent être mis en œuvre et traités avec une rigueur scientifique.
Jusqu'alors, en effet, le problème de la restauration des monuments n'avait pas été vraiment posé. Souvent, on se contentait d'appliquer de véritables emplâtres, comme l'explique Mérimée à son ami Réquien, conservateur du musée d'Avignon.
J'ai fait inutilement de grands frais d'éloquence au Conseil des bâtiments civils pour sauver votre tour de l'hôtel de ville. On la conserve comme on conserve les perdrix à Pithiviers, en les mettant dans un pâté dont le coup passe seul au dehors.
Précieuse parce qu'elles nous font découvrir un Mérimée qui enfin n'est plus, comme il l'a dit d'un de ses héros, boutonné jusqu'au menton, ces lettres nous montrent la diversité de ce qui intéresse notre auteur. Et en même temps, nous y trouvons, ainsi que dans son rapport officiel, bon nombre d'observations qui seront utilisées dans Colomba, dont va nous parler Pierre Salomon. Mais ouvrons d'abord, avec Mérimée, le dossier des sources.
Je ne me lasse pas de me faire conter des histoires de vendette. J'ai passé plusieurs jours dans la ville classique de la Ciopetata, Sartène, chez un homme illustre, M. Jérôme R., qui le même jour fit coup double sur deux de ses ennemis. Depuis, il en a tué un troisième, toujours acquitté à l'unanimité par le jury. J'ai vu encore une héroïne, Madame Colomba, qui excelle dans la fabrication des cartouches et qui s'entend même fort bien à les envoyer aux personnes qui ont le malheur de lui déplaire. J'ai fait la conquête de cette illustre dame, qui n'a que 65 ans, et en nous quittant, nous nous sommes embrassés à la Corse, Idest, sur la bouche. Pareille bonne fortune m'est arrivée avec sa fille, héroïne aussi, mais de 20 ans, belle comme les amours, avec des cheveux qui tombent à terre, 32 perles dans la bouche, des lèvres de tonnerre de Dieu, 5 pieds, 3 pouces, et qui, à l'âge de 16 ans, a donné une raclée des plus soignées à un ouvrier de la faction opposée. On la nomme la Morgana, et elle est vraiment fée, car j'en suis ensorcelé. Pourtant, il y a 15 jours que cela m'est arrivé.
Mérimée note également dans son rapport officiel.
Lorsqu'un homme est mort, particulièrement lorsqu'il a été assassiné, on place son corps sur une table. Et les femmes de sa famille, à leur défaut des amis ou des femmes étrangères connues pour leur talent poétique, improvisent des complaintes en vers dans le dialecte du pays. Quelquefois, c'est la fille, la femme même du mort qui chante ou déclame devant son cadavre. Un homme mourut dernièrement de la fièvre à Bocognano. Ses amis vinrent l'embrasser, suivant l'usage de cette localité, et l'un d'eux lui dit « Oh, que n'es-tu mort de la malmort ?» c'est-à-dire assassiné, « nous t'aurions vengé. »
L'année suivante, après avoir publié Colomba, Mérimée écrit à Étienne Conti, le 12 novembre 1840
« J'ai tâché de faire une mosaïque avec les récits que j'ai recueillis à droite et à gauche sur votre pays et dans toutes les pièces de rapport embrassées tellement qu'ellement. Vous avez pu en reconnaître plus d'une que je vous devais. »
Ainsi, Mérimée a utilisé nombre de ses observations. Monsieur Pierre Salomon.
Il a très habilement exploité, utilisé tous ses souvenirs et le roman est à certains égards, comme il le dit, une mosaïque. Même de tout petits détails qu'il avait observés, les petits chevaux de Corse qui ont la taille de chèvre, ou les cochons qui ressemblent à des sangliers. En somme, il a utilisé avec un esprit d'à-propos très, très grand tous ces épisodes qu'il avait ou bien vus ou bien entendus raconter.
Et à plus forte raison, il a utilisé l'essentiel de l'histoire, c'est-à-dire le schéma de la vendetta. Et le personnage principal, Colomba, ce nom même a été fourni par la réalité.
Oui, par Colomba Bartoli et par sa fille. Il a uni dans un seul et même personnage la mère et la fille. Il a emprunté à la mère son esprit d'âpre vengeance et alors à la fille sa jeunesse et sa beauté. La fille était d'ailleurs plus âgée qu'il ne le croyait et plus âgée aussi que ne l'est son héroïne. De ces deux personnages, la mère et la fille, il a donc créé cette Colomba qui incarne, comme on le dit, l'esprit de vendetta, mais qui incarne aussi davantage, je crois, le sentiment de la famille corse. Elle a l'esprit de famille au plus haut point. Et ceci est marqué non seulement par le désir qu'elle a de venger son père, mais aussi par un autre souci beaucoup plus matériel, celui de restaurer la situation matérielle de la famille.
Mais puisque vous nous avez parlé jusqu'à maintenant des emprunts faits par Mérimée à la réalité, il ne faut pas passer sous silence, je pense, cette fameuse histoire du coup double qui a tellement fait discuter.
Oui, il avait été très frappé par ce récit qu'on lui avait fait de ce coup double dont l'auteur avait été ce Jérôme Rocasserra, avec qui il avait voyagé dans la région de Sartène.
J'ai parcouru les montagnes et les maquis de l'arrondissement de Sartène en compagnie d'un monsieur Jérôme Rocasserra, en but à une vendetta terrible pour avoir tué deux de ses ennemis d'une seule main en deux coups de fusil dans des circonstances exactement les mêmes que j'ai décrites dans Colomba. Un vieux prêtre, seul héritier de la famille ennemie, payait des assassins sardes pour le tuer. Monsieur Rocasserra me disait que ma présence lui donnait une sécurité complète, ma qualité d'étranger étant pour lui comme une sauvegarde. Il a succombé enfin, il y a 3 ans, assassiné par 2 bandits payés par ce prêtre.
On ne sait pas comment il a composé Colomba. Il est très discret sur toute son activité littéraire. Mais ce que l'on sait du moins, c'est qu'il avait fouillé dans les dossiers de la cour royale de Bastia. Et ces éléments que peut-être il a empruntés à des dossiers judiciaires, si je peux dire, il les a pas parfaitement digérés. Et c'est, je crois, si l'on veut trouver une imperfection dans ce roman, par ailleurs fort bien fait, c'est de ce côté-là, je crois, que l'imperfection se trouve.
Oui, car à côté de cela, la construction est remarquable, l'intérêt va croissant, et en fait, on ne sait comment les choses vont se résoudre. C'est très bien construit.
C'est très bien construit. C'est très bien construit. Et l'intérêt va grandissant à mesure que l'on découvre mieux le jeu de Colomba. Et Et à mesure que Orso, qui est un bon jeune homme, se laisse davantage entraîner à jouer le jeu que sa sœur veut lui faire jouer.
Oui, car au point de vue psychologique, le personnage important, comme le titre l'indique déjà, c'est Colombin.
Oui, il y a mis tout ce qu'il a pu découvrir, ou qu'il a cru découvrir, de l'âme corse. Je ne dis pas que ce soit une création très spontanée, c'est une construction habile, et s'il y a des raccords, ces raccords n'apparaissent pas trop. En somme, le terme de mosaïque vaut peut-être pour l'agencement général du roman, mais pour ce qui est du personnage même de Colomba, si ce personnage est fait d'apports différents, si le terme est tout de même injuste, parce que là, tout est harmonieusement fondu.
Je remarque, Monsieur Salomon, que nous avons parlé depuis un petit moment de Colomba, de l'œuvre, et nous avons assez peu parlé de couleur locale.
La couleur locale, elle est dans les personnages. Elle n'est pas beaucoup dans le décor de nature. Le paysage corse n'a pas tellement enthousiasmé Mérimée. Même la baie d'Ajaccio, il la trouve triste. J'ai l'impression que s'il la trouve triste, c'est parce qu'il n'y a pas d'habitation. Il aperçoit des mausolées par endroits, et puis des rochers, des arbres, mais ça ne lui suffit pas. Il semble que pour lui, pour que ce soit gai, agréable, il faudrait que l'on y aperçoive mieux la présence de l'homme.
C'est la pure nature qui m'a plu surtout. Je ne parle pas des maquis dont le seul mérite est de sentir fort bon et le défaut de réduire les redingotes en lanières. Je ne parle pas des vallées, ni des montagnes, ni des sites tous les mêmes et conséquemment horriblement monotones, ni des forêts assez piètres, quoi qu'on en dise, mais je parle de la pure nature de l'homme.
Ainsi, la Corse est entrée dans la littérature française avec Prosper Mérimée, Matteo Falcone et Colomba créant de tels types littéraires qu'ils ont été exploités par nombre d'écrivains et souvent abusivement. Et en même temps sont devenus plus nombreux ceux qui vont visiter la Corse, y faire des séjours et qui en parleront dans leur œuvre. Avec Pierrette Geoffroy, nous allons rechercher leurs traces, négligeant maintenant les sites liés au voyage ou à l'œuvre de Prosper Mérimée.
Oui, avec un peu d'imagination et un peu de mémoire, nous pouvons faire un beau voyage, un voyage presque intemporel. Alors laissons-nous aller, oublions les dates, lâchez mon corps, comme on dit là-bas, laissons courir.
C'est généralement par Ajaccio que le voyageur arrive dans l'île. Ainsi en fut-il pour Maupassant, n'est-ce pas ?
C'est à Ajaccio que Maupassant a débarqué lorsqu'il est venu rejoindre sa mère, depuis longtemps amoureuse de la Corse. L'auteur déjà célèbre de Bel Ami allait peindre et évoquer la Corse dans des chroniques, dans des contes et dans son roman Une vie. Cette arrivée à Ajaccio lui fit une vive impression, comme le prouvent d'ailleurs les récits renouvelés qu'il en a faits.
Une tache grise apparaît au loin sur l'eau. Elle grandit comme sortant des flots, se découpe, festonne étrangement sur le bleu naissant du ciel. On distingue enfin une suite de montagnes escarpées, sauvages, arides, aux formes dures, aux arêtes aiguës, aux pointes élancées. C'est la Corse, la terre de la Vendetta, la terre de Bonaparte. La ville, toute blanche, assise au pied d'une montagne, avec sa grâce méridionale, mire dans le bleu violent de la Méditerranée ses maisons italiennes à toit plat.
Dans ce passage, Maupassant dégage les trois thèmes qui caractériseront, soit simultanément, soit séparément, toute évocation d'Ajaccio. La beauté, la gloire et la mort. Cette beauté a été esquissée par Maupassant. Elle a été aussi traduite très simplement par Flaubert, qui, découvrant cette même ville, a écrit « On ne peut rien imaginer de plus beau que la baie d'Ajaccio ». Mais Ajaccio, c'est aussi, et surtout pour certains, la cité glorieuse, la ville des Bonaparte. Flaubert a visité la maison natale de Napoléon. Il l'a décrite minutieusement. Devant un modeste canapé, il s'est pris à rêver de choses grandes. Pierre Loti, lui, dans son livre de la pitié et de la mort, a évoqué cette maison, et plus particulièrement le portrait de Madame Laetitia, qu'il a plongé dans une méditation assez sombre sur la fuite du temps et sur la mort. Théophile Gautier médite sur la gloire de Napoléon.
Une île lui donne naissance. Tombé, il repart d'une île et meurt dans une île, tué par une île. Il sort de la mer et s'y replonge.
L'image de la mort est présente à Ajaccio, sans qu'il soit besoin d'ailleurs de la découvrir par la voie d'une méditation. Tous ceux qui connaissent Ajaccio connaissent son beau cimetière, véritable cité morte au bord de la mer, sur la route des sanguinaires parmi les pins et les lauriers roses. Et cette image de la mort, aussi étonnant que cela paraisse, est une image souriante, rassurante, presque idyllique.
Pour Emmanuel Arène,
le rêve, c'est d'être enterré en Corse, à Ajaccio, près de la mer, sur cette merveilleuse promenade des sanguinaires, calme et douce, éternellement parfumée, où les vivants eux-mêmes sont tranquilles, et les morts à plus forte raison.
Et pour Jean Lorrain,
Ajaccio ensevelit ses morts au soleil et les fait bénir par la vague dans la verdure éternelle des lauriers roses et des genévriers. Au seuil du pays des Bonaparte, c'est le cimetière qui vous souhaite la bienvenue.
Il en est de la Corse comme d'autres paysages. Chacun les voit à travers sa sensibilité. Ce qui est dramatique pour certains écrivains devient plus souriant sous la plume d'Alphonse Daudet. Ainsi, les îles sanguinaires...
Figurez-vous une île rougeâtre, d'aspect farouche. Le phare a une pointe, à l'autre une vieille tour génoise, où de montant logeait un aigle. En bas, au bord de l'eau, un lazaret en ruine, envahi de partout par les herbes. Puis des ravins, des maquis, de grandes roches, quelques chèvres sauvages, de petits chevaux corses gambadant la crinière au vent. Enfin, là-haut, tout en haut, dans un tourbillon d'oiseaux de mer, la maison du phare, avec sa plateforme en maçonnerie blanche, où les gardiens se promènent de long en large. La porte verte en ogive, la petite tour de fonte, et au-dessus, la grosse lanterne à facettes qui flambe au soleil et fait de la lumière même pendant le jour. Quand le mistral ou la tramontane ne soufflait pas trop fort, je venais me mettre entre deux roches au ras de l'eau, au milieu des goélands, des merles, des hirondelles. Et j'y restais presque tout le jour, dans cette espèce de stupeur et d'accablement délicieux que donne la contemplation de la mer.
Il serait peut-être raisonnable de quitter Ajaccio et de suivre, par exemple, Maupassant sur la route d'Ajaccio à Porto.
Le mordant parfum des plantes aromatiques dont l'île est couverte emplissait l'air, semblait l'alourdir, le rendre palpable. Et la route s'élevait au milieu des grands replis des monts escarpés. Quelquefois, sur les pentes rapides, j'apercevais quelque chose de gris, comme un amas de pierres tombé du sommet. C'était un village, un petit village de granit accroché là, cramponné comme un vrai nid d'oiseau, presque invisible sur l'immense montagne. Au loin, des forêts de châtaigniers énormes semblaient des buissons, tant les vagues de la terrasse soulevée sont géantes en ce pays. Et les maquis, formés de chênes verts, de genévriers, d'arbousiers, de lentisques, d'alaternes, de bruyères, de lauriers-teints, de myrtes et de buis, que relient entre eux les mêlants comme des cheveux les clématites enlaçantes, les fougères monstrueuses, les chèvrefeuilles, les cistes, les romarins, les lavandes, les ronces, mettaient sur le dos des côtes dont j'approchais une inextricable toison.
pour rencontrer le père Didon, célèbre prédicateur de Notre-Dame de Paris, alors en exil dans ce couvent, Maupassant se rendit à Corbara, entre Calvi et l'île Rousse.
Pour aller d'Ajaccio au monastère de Corbara, on peut suivre un chemin à travers les montagnes. Il serpente sans fin à mi-côte, au milieu d'impénétrables maquis, longe des précipices où l'on ne tombe jamais, domine des fleuves presque sans eau à cette saison, traverse des villages de Saint-Maison accrochés comme des nids aux saillies du roc, passe devant des sources minces où boivent les voyageurs éreintés, et devant des croix nombreuses, annonçant qu'à cet endroit un homme est mort. Et c'est une balle qui les a tués presque toujours, ces pauvres diables couchés au bord de la route. Après avoir traversé les immenses forêts d'Aiton ou de Valdoniello, le Val de Niolo, la plus belle chose que j'ai vue au monde après le Mont-Saint-Michel, et une partie de la Balagne, le pays des oliviers, j'ai retrouvé la mer auprès de Corbara. Le paysage est grandiose et mélancolique. Une plage immense s'étend à demi-cercle, fermée à gauche par un petit port presque abandonné des habitants, car la fièvre ici dépeuple toutes les plaines, et terminée à droite par un village en amphithéâtre, Corbara, élevé sur un promontoire.
Flaubert, le maître de Maupassant, a suivi avant celui-ci la côte occidentale. Il n'avait que 20 ans et venait d'être reçu bachelier. Son style n'avait pas encore la précision, la maîtrise qu'admirera et imitera Maupassant. Mais les notes de son voyage en Corse sont loin d'être sans intérêt. La Corse y apparaît baignée par la mer et par le soleil. Et dans ce décor qui évoque pour lui l'Orient, vivent des êtres dignes de l'Antiquité. Flaubert ne se lasse pas de rapporter des anecdotes, des histoires de vendettes. Il retrouve dans le Corse à la fois Montaigne et Corneille. Ses impressions, on le voit, sont teintées de souvenirs littéraires. Il est donc allé d'Ajaccio à Vico, en passant par Sagone, qui était en ruine à l'époque. Puis, revenu à Ajaccio, il fait route vers Bastia, par Vitzavone et Gisone.
Forêt justement fameuse, la forêt de Vitzavone, mêle les hêtres au sombre pin Laricio. Et René Bazin dit avoir vu là de jeunes arbres transparents au soleil et veinés comme des agates. Charles Maurras évoque lui aussi cette forêt dans Antinéa.
Nous sommes au cœur d'une sorte d'hiver. Une blanche traînée de neige luit au flanc de quelques sommets. Mêlés aux châtaigniers que rien ne décourage, s'avancent les tristes sapins. Le clair soleil qui s'est tout à fait ranimé n'échauffe point la vivacité métallique, le froid de l'air. On glisse maintenant sur la hauteur du col, sans haut ni bas accentué, jusqu'à Vitzavone. La prairie naturelle étale un herbage profond. Les vastes arbres déterminent des abris à l'œil fatigué. Quelques troupeaux semés de ci de là confirment une molle impression de rusticité virgilienne. Ce pays sans histoire exhale ainsi tant de poésie naturelle que l'on voudrait nommer un pauvre ruisseau Spercius, un obscur vallon, le Tempe.
Flaubert ne dit rien sur Vitzavone. Il est vrai qu'à partir de là, ses notes ont été écrites au retour. D'autre part, son voyage par l'intérieur n'a pas toujours été facile. Les sentiers sont parfois à peine praticables. Son guide est baveux, bavard, bravache. Et la nuit, les puces le tiennent éveillé. Tout cela, cependant, ne tarit pas son enthousiasme. Pourtant, à Bastia, cet enthousiasme va céder la place à une sorte de colère. Là, dit-il, les mœurs y sont dissolues, continentalisées. Le parallèle qu'il trace entre Ajaccio et Bastia n'est guère en faveur de cette dernière. Il souligne la rivalité des deux villes, comme d'autres d'ailleurs le feront après lui.
Ainsi René Bazin, Jeanne Catulle-Mendès, Pierre Morel.
Celui qui a vu Bastia a vu une jolie fille du Midi, coquette, qui monte de la marine avec une corbeille de fruits sur la tête. Celui qui a vu Ajaccio et son golfe a vu une tache blanche dans l'un des plus beaux miroirs à montagne qu'il y a par le monde.
Ajaccio, la séductrice. Cage orgueilleuse et nonchalante d'un souvenir qui la déborde pour remplir l'univers. Bastia, vivace merveille terrienne et marine, au rude passé de terre armoriée.
Si Ajaccio, tout en sourire et en chant, est la cigale de la Corse, Bastia en est la fourmi, économe et laborieuse.
En faisant le tour du Cap Corse, René Bazin a su, en même temps que le paysage, voir l'homme et son travail.
Nous avons traversé les petits ports de la côte orientale. Maintenant, nous suivons une route de corniche, tournante, audacieusement taillée dans le flanc des montagnes d'une hauteur qui varie entre 100 et 360 mètres au-dessus de la mer. L'ampleur de l'horizon, l'éclat du moindre flot et de la moindre pierre des golfes qu'on domine, la très belle lumière qui court sous les branches et la très belle herbe qu'elle rencontre, le merveilleux village de Nonza, bâti sur une pyramide presque détachée de la côte, le bois, les cultures, sans raison de cette sorte, me font regretter non pas que Concarneau est une colonie de peintres, mais que la Corse n'en est pas une. Oui, les cultures, malgré la pente terrible, malgré le soleil, au milieu de ces masses de roches, les habitants ont fait des prodiges. Partout où il a été possible d'établir, de suspendre des jardins au flanc des falaises, ils ont taillé le rocher ou élargi les minces plateformes naturelles, creusé des escaliers qui vont d'étage en étage, apporté de la terre, contenu le précieux humus à l'aide de petits murs et enfin, dans des cuves surchauffées, ils ont planté des cédratiers.
La route de la côte orientale qui va de Bastia à Bonifacio, en suivant la mer, a l'avantage d'être à peu près rectiligne, ce qui est appréciable en Corse. Mais elle n'est pas aussi pittoresque que celle de la côte occidentale, plus accidentée. On y passe par Aléria, ville ancienne, ville morte, que Flaubert a évoquée en l'apercevant à 4 lieues de là, depuis la plaine du Fiumorbo.
Ensevelie dans cette plaine vide et blanche, elle me semblait une de ces cités de l'Orient mortes depuis longtemps et que nous rêvons si tristes et si belles, y replaçant les rêves de grandeur que l'humanité a eus. C'est bien devant cette mer-là, quand, avec tout son azur, elle surgit au soleil entre les fentes de rochers gris, que le cœur, alors, prend une immense volée pour courir sur la cime de ces flots si doux, à ces rivages aimés où les poètes ont placé toutes les beautés, à ces pays suaves où l'écume, un matin, a apporté dans une coquille la Vénus endormie.
Un peu plus au sud encore, la petite ville de Porto Vecchio a retenu pendant plusieurs années celui qui avait, le premier, reçu le prix Goncourt, John Antoine No. On le comprend en voyant ce golfe profond, si bien découpé, bordé d'une végétation quasi exotique, ce golfe qui s'étend au pied des plus beaux paysages de la montagne corse. C'est la forêt de l'Hospédal, le col de Bavel. Là, John Antoine No écrivit, avant la guerre de 1914, Thérèse Donati.
Le golfe lumineux étalait ses trésors de pierres précieuses, vertes, azurées, solaires, mêlées à des fleurs charmantes, bleuets, iris, liserons, sous la brise gaie qui le givrait d'une poussière de diamants. Les montagnes excelses, rocheuses, veloutées de forêts, faisaient à ces richesses fluides un somptueux écrin pailleté d'or versicolore par cette radieuse matinée. La petite ville de Porto Vecchio, perchée sur sa colline, dardait un clocher frêle, et profilait ses bastions chaudement ambrés et une idée mauve.
Le paysage se transforme totalement à l'approche de Bonifacio. Plus de roches granitiques ou schisteuses, mais du calcaire. La ville elle-même, juchée, suspendue au-dessus de la mer d'un bleu profond, semble tenir par miracle sur ses falaises creusées d'un blanc crayeux.
Bonifacio est une bizarre petite ville. Ses étroites rues en pente rude, sont pavés d'un caillouti dur qui râpe les semelles. Les maisons sont en pierre, massives, trapues. Quelques-unes s'ornent de portes aux linteaux grossièrement sculptés. L'aspect est mi-provençal, mi-italien, et plutôt rébarbatif. Les gens nous regardent passer avec indifférence, tandis que nous montons vers la citadelle dont la lourde masse orangée se carre sur le ciel bleu.
C'est ce qu'a vu Henri de Régnier au cours d'une croisière. Mais pour René Bazin,
celui qui a vu Bonifacio a vu une merveille. Quand j'aurais dit que la ville est bâtie sur un plateau calcaire, sur une presqu'île étroite, à pic, parallèle à la côte, et que la mer qui la contourne forme derrière elle un port naturel, invisible du large, long et profond comme un petit fjord, je n'aurais pas expliqué l'émotion qu'elle excite. Bonifacio n'a pas un arbre. Il y a de vieilles murailles, draperies inégales qui pendent au-dessus du port, s'attachent à la falaise d'Orient, se relient à la falaise d'Occident. Il y a de hautes maisons agglutinées d'où s'échappent plusieurs moulins en ruine, une tour ajourée et un clocher qui ne l'est pas. Tout cela fait une ville pittoresque et déjà souhaitable. Mais la beauté lui vient d'un double voisinage, du reflet où elle vit, entre un désert de pierre qui la précède, l'enveloppe, la crible de rayons, et le détroit d'entre Corse et Sardaigne qu'elle domine et qui l'assaille aussi de sa lumière. La tour des Templiers, les façades de bien des maisons sont devenues, comme dans les contes de fées, couleur du soleil. Et tout au loin, les montagnes de Sardaigne s'en vont en si larges festons se perdre dans la brume.
Nous sommes arrivés à la pointe extrême de la Corse, au bout de notre voyage. Nous pourrions le recommencer avec d'autres voyageurs, avec d'autres images écrites, car nous n'avons fait que citer quelques noms, quelques extraits, et il y en a tant. Toutes ces images réunies formeraient d'ailleurs une image complexe, pleine de contradictions. Au cours des siècles, l'image littéraire de la Corse a singulièrement évolué. Depuis l'Antiquité jusque vers le milieu du XVIIIe siècle, cette image a été manifestement diabolique. La Corse est un pays barbare. Ses habitants sont des êtres assoiffés de sang, autant dire des vampires. Et voilà que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l'image va se renverser totalement et devenir paradisiaque. Jean-Jacques Rousseau est le premier à faire de l'île et des indigènes un portrait plus qu'élogieux. « J'ai quelques pressentiments, écrit-il, qu'un jour cette petite île étonnera l'Europe. » La Corse devient la terre du bon sauvage, de l'homme qui a été préservé des vices de la civilisation. C'est la terre de la virtù. Devenue française, la Corse donne à la France un empereur qui entre à sa mort dans la légende et auréole la Corse d'une gloire particulière. Au début du XIXe siècle, l'image de la Corse garde certains traits idylliques, mais le romantisme préfère la passion à la vertu, le bandit d'honneur au bon sauvage. Mérimée met la vendette à la mode en littérature. D'autres l'imiteront, ou du moins tenteront de l'imiter. Au terme de cette évolution, une image de la Corse, en tout cas, s'est imposée, à la fois tragique, idyllique, passionnelle, une image proche, peut-être, de la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être saisie et transcrite.
France Culture vous a présenté La Corse et les écrivains français, une émission de Paul Chavas. Avec la participation de Maurice Echappas, Pierrette Geoffroy, Pierre Salomon, Marie Susini, Philippe Van Tighem.
Termina.
et les voix de Jean Rochefort, Henri Nassier, Jean Levray, Jacques Fayet, Georges Aubert, Gaëtan Genre, Jean Daguerre, Inès Nazaris, Rosine Favet. Prise de son, Jean Pantaloni avec la collaboration de Pierre Brault. Assistante, Catherine Joubert. Réalisation, Arlette Dave.
Antirocelli sotto zompesci sarati e sopra pace e nulangeli.
C'était La Corse et les écrivains français, émission diffusée le 18 janvier 1969 sur France Culture. À la radio, l'éphémère est éternel. Vous pouvez réécouter éternellement cette émission à télécharger sur franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.
Darling, shame, you'll catch it on soul.